Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission proposée par Monique Cantot-Sperber. Le discours amoureux et ses règles sur Roland Barthes avec Éric Marty. Qui est l'amoureux ? De quoi est faite la parole amoureuse ? Quelles sont ses règles ? À quoi vise-t-elle ? Entre l'omniprésence de la sexualité et les clichés des romans d'amour, comment parle-t-on d'amour ? Comment l'amour parle-t-il ? La question a une signification éthique, car l'amour est un des premiers affects humains. Roland Barthes publia en 1977 « Fragments d'un discours amoureux ». C'est une réponse à cette question, assurément audacieuse, peut-être à discuter, mais évidemment décisive. Alors, Éric Marty, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier au Seuil Le discours amoureux, l'édition du séminaire que Roland Barthes donna de 1974 à 1976 à l'École pratique des hautes études, donc un an avant de publier Fragments d'un discours amoureux. Vous avez également publié Roland Barthes, Le métier d'écrire, et vous êtes universitaire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur André Gide, René Char, Louis Althusser, Jean Genet. La personnalité intellectuelle de Barthes est très présente aujourd'hui, presque une trentaine d'années après sa mort. Roland Barthes, par plusieurs de ses ouvrages, exerça une influence considérable sur la théorie et la critique littéraire. Alors, la période qui nous occupera, c'est celle des années 74-77. Et dans les deux années du séminaire que vous publiez, donc Barthes était détenteur d'une direction d'études intitulée « Sociologie des signes, symboles et représentations », on voit se préparer l'écriture de ce livre, « Fragments d'un discours amoureux », qui fut exceptionnel à bien des égards quand il est paru. Pour quelles raisons ?
Je crois que ce qui est exceptionnel, parce qu'il a d'abord surpris, bien qu'il ait été préparé par ce cours, ce séminaire qui a duré 2 ans, néanmoins ce livre est apparu comme n'ayant pas de précédent, ni même de frères jumeaux dans, je dirais, la modernité. Et le caractère d'exceptionnel, je pense qu'il faut l'entendre d'abord peut-être comme exception. Exception dans une forme de collectif ou d'unanimité qu'était la modernité. Et finalement, les œuvres de l'époque étaient sans doute exceptionnelles par leur qualité, mais ne faisaient pas forcément exception. Elles étaient toutes dans une sorte de dialogue les unes avec les autres. Fragment d'un discours amoureux apparaît comme un livre un peu seul, isolé, et en ce sens, en effet, fait figure de, je pense, d'exception, en ce sens très littéral du terme.
Il est en rupture avec une compréhension un peu dogmatique, si je puis dire, de l'avant-garde. Nous verrons pourquoi. Mais ce livre a aussi eu un succès tout à fait extraordinaire pour un livre aussi difficile que celui-là, traduit en plusieurs langues, prétexte à une représentation théâtrale. Et Barthes aussi se révélait écrivain, pas simplement théoricien et critique, mais écrivain sans concept, enfin pas sans pensée. Et d'ailleurs, le travail préparatoire que vous publiez sous forme du séminaire montre bien la force et la puissance de l'écriture dans le passage de l'oral à l'écrit, et puis aussi de l'écrit plein à l'écrit réduit, puisque dans ce volume, Le discours amoureux, vous publiez également les chutes, ce que vous appelez les chutes, ce qui n'a pas été jugé digne, si l'on peut dire, de figurer dans le livre final. Alors, si vous voulez bien, je voudrais lire l'entrée du discours, première page du livre, fragment d'un discours amoureux. La nécessité de ce livre tient dans la considération suivante que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Ce discours est peut-être parlé par des milliers de sujets, qui le sait, mais il n'est soutenu par personne. Il est complètement abandonné des langages environnants, ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes, science, savoir et art. Lorsqu'un discours est de la sorte entraîné par sa propre force dans la dérive de l'inactuel, déporté hors de toute grégarité, il ne lui reste plus qu'à être le lieu, si exigu soit-il, une affirmation. Cette affirmation est en somme le sujet du livre qui commence. Barthes parle de l'extrême solitude, discours amoureux, donc ce qu'il est, mais il parle aussi de l'affirmation, ce qu'il doit être. Comment comprendre ce passage, la solitude à l'affirmation ?
D'abord, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas un livre sur l'amour, justement. C'est un livre sur le discours amoureux. Et c'est là, peut-être, ce qui fait la singularité de ce livre et son succès. Barthes, au fond, aurait pu faire un traité de l'amour. Et à ce moment-là, la théorie, la pensée aurait été, bien sûr, cette immense machine à interpréter et à produire une interprétation, une philosophie, une psychanalyse, une sociologie, une sémiologie de l'amour. Et il ne fait pas ça. Il s'intéresse, lui, au discours amoureux, c'est-à-dire, au fond, à ce qui est soustrait précisément au concept, ce qui est soustrait aux représentations, ce qui ne s'affirme que sous des formes extrêmement fragiles de parole, car rien n'est plus justement fragile que la parole amoureuse, telle qu'en tout cas Barthes l'entend en lui-même, et l'entend peut-être aussi chez autrui, chez l'autre, chez l'être aimé. Et donc cette fragilité, je crois, est à la fois ce qui fait justement le caractère à la fois très, très puissant du discours amoureux, mais aussi sa rareté. Sa rareté, puisque au fond, personne vraiment ne l'enregistre, ce discours amoureux. À peine est-il prononcé qu'il est oublié, qu'il s'échappe, pour être remplacé par des représentations précisément de l'amour, c'est-à-dire justement le simulacre. L'amour tel qu'on le pense, tel qu'on le représente. Le discours amoureux, lui, il est justement une parole à peine murmurée, ce que Barthes appelle une sorte de soliloque, de bouffée de paroles, de bouffée de langage, de morceaux de phrases, de fragments, d'où les fragments des discours amoureux. Et justement, c'est ça qui est, je crois, très fort de la part de Barthes dans cette entreprise-là, c'est d'avoir justement été cueillir ces instantanées de paroles, ces paroles très fragiles, très éphémères, qui composent, qui constituent la matière même du discours amoureux.
Donc, discours amoureux, dit Barthes, est abandonné des langages environnants. Et la figure centrale des fragments d'un discours amoureux, c'est l'amoureux. L'amoureux, qui n'est pas un sujet, hein. Ce n'est pas un sujet qui présente le symptôme d'être amoureux. Tout non, c'est un discours, c'est un langage en action, une énonciation qui est mise en place dans le livre.
Peut-être juste un mot, parce que pour répondre complètement à votre question, en fait, sur ce qui est important, c'est le mot aussi abandonné que vous avez bien prononcé comme étant fort dans cette phrase. Et Barthes, à ce moment-là, je crois, est très sensible à l'idée qu'il y a des discours, qu'il y a des discours dominants. Et il a une sensibilité particulière justement à l'idée qu'il y a des discours qui ne sont pas minoritaires au sens justement où on l'entend à l'époque, c'est-à-dire défense des minorités, mais qui sont justement marginaux ou en dérive ou en état de perte. Il s'intéresse par exemple beaucoup au chant romantique comme justement quelque chose aussi d'inactuel et d'abandonné. Et le discours amoureux appartient à ce type de discours auquel Barthes développe une extrême sensibilité. Je crois qu'il est en contrepoint, bien sûr, avec l'époque, c'est-à-dire avec la domination d'un discours qui est le discours moderne, auquel Barthes participe aussi, mais justement, à partir duquel, justement, il écoute, il entend les discours qui sont dans cette espèce de fissure ou de désarroi ou d'abandon, comme le discours amoureux.
Mais Barthes, avant de parler de son rapport un petit peu distancié à l'avant-garde qui apparaît avec la publication de ce livre, Barthes, dans Fragments d'un discours amoureux, réalise cette entreprise tout de même inouïe au sein de la littérature consacrée à l'amour. Personne n'a fait parler le discours amoureux de cette façon-là, c'est-à-dire à partir d'un jeu structural qui est au fond une place de parole, une place où ça parle, où quelqu'un parle d'amour, un amoureux qui parle et qui dit « Je m'abîme, je succombe, adorable, le cœur, je veux comprendre ». Le corps de l'autre, pourquoi faire une scène, idée de suicide. Bon, voilà quelques-uns de ces fragments du discours amoureux. Tout cela donne la réalité du discours amoureux, qui est évidemment une réalité sans normes, une réalité déréglée, si on peut dire. Comment ces mots, ces bribes de phrases, ces figures abandonnées donnent-elles une réalité à cet acte de parole qui est présenté dans le texte même ?
Barthes joue sur plusieurs niveaux justement de cette parole et à la fois il y a disons des mots emblèmes, je succombe par exemple ou je m'abîme ou adorable C'est-à-dire qu'il prélève en quelque sorte dans le discours amoureux des sortes de formules et qu'il va déployer en toutes les nuances, toutes les vibrations que ces expressions littérales peuvent laisser justement entendre. Et puis, il double ce jeu aussi d'emprunt à des images de l'amoureux ou des images qui pénètrent l'amoureux. C'est donc en fait un dispositif très très complexe et en même temps très efficace que Barthes construit. Il construit un livre avec 80 figures classées selon l'ordre alphabétique et qui sont comme justement une sorte de tableau à la fois de fragments de paroles, d'images, de situations.
Alors je peux citer par exemple les lunettes noires. X, parti en vacances, sans moi, ne m'a donné aucun signe de vie depuis son départ. Accident, grève de la poste, indifférence, tactique de distance, exercice d'un vouloir vivre passager. Sa jeunesse lui fait du bruit, il n'entend pas. Ou simple innocence, je m'angoisse de plus en plus, passe par tous les actes du scénario d'attente. Et un peu plus loin, les phrases qui arrivent. Comment vas-tu? Ce n'est pas chic, tu aurais bien pu. Mais dans quelle inquiétude tu m'as mis? Tout ce fragment composite qui façonne le discours amoureux. Et Barthes insiste beaucoup sur le fait que discours est à interpréter au sens littéral, c'est-à-dire c'est l'action de courir, ça et là, de s'investir dans des bouffées de langage, des bouffées dont les bris, dit Barthes, sont les figures. Il y a des choses lues, des choses entendues, des choses qu'on reconnaît, des scènes de langage qui donnent corps au discours amoureux. Mais alors, on a l'impression, évidemment, c'est tout à fait voulu, sans doute, que c'est un discours sans liberté. Ce sont des figures qui s'imposent à celui qui parle d'amour. L'illusion d'un sujet créateur de langage amoureux est totalement fracassée.
Au fond, ce qui intéresse Barthes dans le discours amoureux, c'est justement que cette situation existentielle de l'amoureux, à savoir d'être celui qui parle à quelqu'un qui ne répond pas, précisément est une position créatrice malgré tout. C'est la non-réponse qui est comme la donnée structurale dans la situation amoureuse, la non-réponse d'autrui, et qui est pour Barthes la situation absolue du sujet amoureux, du discours amoureux, qui place l'amoureux, quelle que soit la pauvreté de son langage, dans une position précisément où il va se décaler par rapport à la langue, se décaler par rapport à la parole commune, et donc produire malgré tout des situations de sens très singuliers, très intenses, malgré peut-être leur dimension structurale.
Mais ce discours amoureux, il n'appartient pas véritablement à l'amoureux. Barthes dit c'est on fait courir le furet. Ce sont des phrases qui se sédimentent dans chacune de ces figures qui incarnent, qui disent l'amour. Et chacune de ces cases mises ensemble forme une topique de l'amour, c'est-à-dire une carte du tendre en quelque sorte, avec chaque figure désignée par un argument, une pancarte.
C'est pourquoi d'ailleurs il faut qu'il y ait un écrivain qui soit là pour précisément
pour résumer tout cela. Voilà, et derrière chaque, il y a une pancarte, des figures, des phrases inconscientes, des phrases quasi automatiques qui parlent toutes seules. Dans l'attente, par exemple, qui est le lieu amoureux par excellence, l'attente évidemment qui n'a pas attendu un amoureux, dont on craint qu'il ne vienne pas, et les phrases du ressassement qui viennent immédiatement, tout de même ce n'est pas chic, il ou elle sait bien pourtant que ces phrases qui parlent toutes seules. Mais Éric Marcy, derrière cette perspicacité impressionnante de l'analyse de Barthes, on a le sentiment que ce discours amoureux qui n'appartient pas à celui qui le dit est récusé la psychologie ordinaire de l'amour, où c'est l'introspection qui décrit les états mentaux, qui se réfèrent à l'état amoureux.
Barthes construit, malgré tout, une œuvre très, très délibérément édifiée, avec un dispositif fragmentaire, avec un système de citations, de références, avec des jeux assez complexes. Donc, il y a en fait un personnage qui est là, qui est en effet celui qui parle et qui dit. C'est un amoureux qui parle et qui dit, mais c'est un personnage. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a justement quelqu'un qui, comme dit Barthes, lui prête sa culture et lui prête son écriture, et tout est peut-être là. Tout est peut-être justement là, dans cette opération, où en fait il y a deux voix qui se mêlent, une voix qui ne sait pas, celle de l'amoureux, et une voix qui sait, qui précisément recueille la parole amoureuse et lui donne cette forme, qui la recueille, qui l'accompagne et qui lui prête justement l'écriture. Donc cette idée de l'amoureux, elle est pensable aussi parce que il y a justement celui de l'écriture qui est là.
Alors on n'a pas le dilemme l'opposition entre le refus d'un sujet pourvoyeur de sens au profit d'une structure décentrée, d'une structure qui serait un discours qui parlerait tout seul, mais ce qui empêche d'avoir cette opposition stricte, c'est qu'en arrière-fond, il y a Barthes qui nourrit ce discours amoureux d'un psychisme, d'un ensemble de références obsédantes, la référence à Werther, les références au leader, en particulier au leader de Schumann, la référence au banquet, au Phèdre de Platon. Cette opposition en laquelle on résume souvent le renversement opéré par l'avant-garde telle qu'elle s'est manifestée dans plusieurs œuvres, y compris celle de Barthes, c'est-à-dire substituer une structure au sujet, perd un peu de sa portée ici. C'est un phénomène beaucoup plus complexe qu'on a à faire.
Oui, alors évidemment, je crois que Barthes n'est pas plus du tout dans le même rapport à la notion de structure quand il écrit Les femmes en discours amoureux, qui ne pouvait l'être dans les années 60, par exemple, bien sûr. Mais la structure reste néanmoins. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une évolution ou même des éléments de rupture par rapport au concept structuraliste. Néanmoins, la structure est là. L'amoureux, comme vous le disiez, est à une place. Et cette place est absolument implacable. Et Barthes en développe le dispositif, la topologie, de manière tout à fait systématique. Mais en même temps, la différence, c'est que Barthes n'est pas hors de la structure. Il n'observe pas comme faisait justement le sujet structuraliste, à savoir décrire des structures d'un point de vue extérieur. Il se place lui-même dans la structure et c'est là que tout change, justement.
Jacques Alain Miller, qui participait avec Georges Friedman, avec Edgard Morin et Roland Barthes au comité de rédaction de communication, vous rappelez cette formule, exprime ou plutôt attribue à Barthes la conviction que, je cite, tout fait système, s'articule, rien d'humain n'était étranger parce que l'humain, selon lui, selon Barthes, était structuré comme un langage de saussure. Cette formule, qui est sans doute un petit peu excessive, et Jacques Alain Miller interprète de façon peut-être systématique la subtilité, un peu trop systématique, la subtilité de la pensée de Barthes. Mais derrière cela, il y a tout de même la récusation à propos de l'amour de la psychologie amoureuse, celle qu'elle est traditionnellement présentée dans la littérature. C'est-à-dire psychologie résultant de l'histoire, de l'intrigue, des composantes individuelles des personnages qui sont les ingrédients clés du roman d'amour.
Absolument. Alors, je pense que la phrase de Jacques Alain Miller est à la fois évidemment exagérée et en même temps juste. C'est-à-dire que ce que dit Jacques Alain Miller, c'est qu'au fond, la structure a servi aussi de méthode pour écarter, pour détruire, pour purifier un petit peu le discours justement du fatras antérieur. C'est-à-dire qu'on prend de grandes décisions, on crée une grande théorie, on décide que l'homme n'est que ça, on énonce de manière absolument intense et intenable, évidemment, un discours qui va réduire l'homme à n'être que comme un langage ou à n'être construit comme un langage. Et au fond, on n'y croit pas. On y croit comme méthode justement pour écarter ce qui alourdit notre pensée, toutes les vieilleries, et en effet, la psychologie. Alors, la psychologie, pourquoi au fond écarter la psychologie ? Eh bien, parce qu'elle dit toujours déjà ce qu'on devrait justement dévoiler. La psychologie préétablit ou conçoit à l'avance les relations humaines comme des systèmes de cause-effet parfaitement normés, parfaitement systématiques. Et ça, c'est bien sûr le contraire du dévoilement. Alors, pour dévoiler, il faut bien sûr donc détruire tous les discours préconçus dont la psychologie est le creuset.
Mais alors, cette fonction de purification, ce rôle de purification qu'a la structure chez Barthes, selon vous, Éric Marty, permet en effet de bien dégager le terrain. D'ailleurs, Barthes dit « L'amoureux parle de façon horizontale, il parle par paquets de phrases, il n'y a aucune transcendance, aucun salut, aucun roman ». Alors, que reste-t-il de l'ambition littéraire telle qu'on l'a définie traditionnellement ? Parce que il y a le grand, comme dit Barthes, le grand autre narratif qu'on écarte d'un côté, De l'autre côté, le grand ruissellement de mots qui traverse chacun de nous. Pour l'amour, c'est simple, ça naît, ça monte, ça fait souffrir, ça passe, ça c'est le scénario archétypique. Mais que reste-t-il de la littérature, du roman d'amour, qui est la première matière de la littérature? Que reste-t-il de cette ambition proustienne que Proust rappelle dans Le Temps retrouvé, cette capacité d'exprimer la différence qualitative de chacun dans la façon dont lui apparaît le monde, qui par l'art devient la clé même de la révélation littéraire? Qu'en reste-t-il dans cette conception?
Je crois que ce qui est très important, c'est quand Barthes dit qu'il faut oublier le roman au profit justement de la parole amoureuse. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, le roman, au fond, c'est ce qu'il dit, hein, c'est la transaction que l'amoureux paye avec le monde une fois son aventure terminée. C'est la transaction qu'il paye, le tribut qu'il paye au monde pour pouvoir réintégrer la société une fois qu'il a consommé son histoire d'amour. Et ce roman, c'est ce qu'il vient apporter au monde comme le moyen de pouvoir réintégrer le monde. Il y a là un discours extrêmement violent, très négatif par rapport au roman, mais qui est chez Barthes depuis le début, depuis le degré zéro de l'écriture. Barthes ne cesse de voir dans le roman quelque chose de terriblement factice, artificiel, en fait d'être une organisation littéraire totalement mondaine et qui ne peut pas dévoiler quoi que ce soit de neuf. D'où son aspiration à ce degré zéro de l'écriture, à la littéralité, à la lettre, à une forme de transparence d'un autre langage que celui du roman. Et donc, au fond, que reste-t-il? Il reste justement ce vers quoi Barthes va, et pas seulement dans les discours amoureux, mais depuis déjà des années, il y a le fragment qui est une forme d'écriture et qui préserve précisément de l'écriture sa dimension littérale et non sa dimension transactionnelle, si on peut dire. Donc, oui. c'est bloqué, au fond, oui. Que fait Barthes? C'est bloquer l'écriture de telle sorte qu'elle ne déchoit pas en transaction comme, selon lui, à ses yeux, c'est un point de vue très radical, le roman peut le faire.
Parce que l'opération de fragmentation va assez loin. Hein. Barthes observe que le discours amoureux n'avance pas, ne subsume rien, ne résout rien. Il répète, il tourne en rond, dit-il, dans une forme d'encyclopédie. Donc il n'y a pas d'autre accès au sens, au fond, que sous la forme de Bouvard et Pécuchet. C'est-à-dire, pour décourager toute tentation de sens, il faut un ordre insignifiant, qui est l'ordre de l'alphabet, qui permettra d'ordonner les fragments du discours amoureux. Mais en même temps, à la fin du prologue « Comment est fait ce livre ?», Barthes dit: si l'auteur prête ici au sujet amoureux sa culture, en échange, le sujet amoureux lui passe l'innocence de son imaginaire, indifférent au bon usage du savoir. La réapparition de cette notion d'imaginaire est très forte dans ce texte. D'ailleurs, vous y consacrez une analyse tout à fait convaincante dans votre livre « Plaisir d'écrire ». On voit comment Barthes prépare cette notion dans le séminaire. En quoi cette reconnaissance de la part de l'imaginaire, un imaginaire que Barthes tente à penser comme une force poétique et pas du tout comme une idéologie, en quoi marque-t-elle une sorte de décalage de Barthes par rapport à l'avant-garde telle qu'elle se comprenait à ce moment-là?
Je crois que l'imaginaire, dans les années 70, c'est un mot qui est devenu un mot tabou, un mot critiqué. L'imaginaire, c'est Sartre. L'imaginaire, c'est au fond la phénoménologie pour la plupart des modernes. Et l'imaginaire, c'est l'idéologie pour les marxistes, c'est le leur pour les lacaniens, c'est le moi, pire encore. Ce que fait Barthes, effectivement, c'est une opération qui ne date pas d'ailleurs des fragments des discours amoureux, qui remonte déjà avec le plaisir du texte, avec le Roland Barthes par Roland Barthes, une opération qui consiste justement à redonner ou à restituer l'imaginaire, non pas tel qu'il était pratiqué avant que la modernité s'en empare et le détruise, mais justement tel qu'il peut être maintenant pratiqué, depuis que la modernité justement a dégagé le terrain. On peut dire que Barthes est très dialectique, toujours, en toute occasion. Ce n'est jamais justement des positions univoques qu'il prend. Donc quand il parle d'innocence de l'imaginaire, ce n'est pas une innocence, naïve. C'est une innocence qui est permise précisément par le travail qu'a fait la modernité en purifiant en quelque sorte, comme je l'ai dit, le monde, la pensée, l'écriture, les discours, les concepts.
Et c'est particulièrement frappant dans le fragment le cœur gros, cette platitude, ce cliché par lequel Barthes atteint une forme inexprimable.
Je crois qu'une chose importante, c'est que même à l'époque où Barthes était justement dans ce discours de la modernité, disons, de la démystification, du marxisme, etc., à l'époque des mythologies, où justement tout doit être démystifié, tout doit être réduit, où l'imaginaire est complètement imprégné par l'idéologie, eh bien, même à ce moment-là, Barthes maintient justement l'idée qu'il y a un sens inaliénable des choses et que ce sens inaliénable des choses, il faut précisément pouvoir le penser et ne pas le détruire par le discours de la démystification.
Alors, Barthes refuse toute validité au métalangage. Il est clair qu'aucun discours n'a le dernier mot, il n'y a pas de supériorité. Le discours sur l'amour, c'est l'amoureux. Et la structure existentielle et linguistique, c'est elle qui se substitue au sujet, c'est elle qui parle. Difficile de ne pas penser à ces formules si frappantes que Barthes a prononcées dans sa leçon inaugurale au Collège de France, donc peu de temps après. La langue oblige à dire, elle n'est ni réactionnaire, ni progressiste, elle est fasciste, beaucoup connaissent ces formules. Mais Barthes ajoute, il ne peut y avoir de liberté que hors du langage, or le langage humain est sans extérieur, il est un huis clos. Il ne nous reste qu'à tricher la langue, c'est la littérature. Il prône un retour au texte comme l'index même du dépouvoir. Alors quel lien faire avec évidemment, la dernière figure, la plus belle peut-être, des fragments du discours amoureux, le non-vouloir saisir, celui qui est introduit par la sobria ebrietas, qui clôt le discours.
Alors, il clôt le discours et ne le clôt pas, puisqu'au fond, c'est un jet de suspension que fait Barthes. Le non-vouloir saisir, ce n'était pas un jet de clôture. Alors ça termine le livre, mais en même temps, ça le termine sur un acte entièrement ouvert, qui est celui, justement, je dirais, de la non-possession ou de la non-propriété, de la non-appropriation. En ce sens, on pourrait dire que Barthes introduit... Enfin, il faut parler du rapport avec la langue fasciste ou avec l'idée, justement, de domination. Je crois qu'on retrouve là le même souci éthique et la même angoisse. L'idée justement d'aliénation, de domination, d'un discours qui serait en quelque sorte massif et meurtrier, soit du sens, soit des mots, soit de l'autrui dans le rapport amoureux. Et je crois qu'il y a un principe de délicatesse complète qui est au cœur de l'écriture de Barthes, au cœur de sa pensée, au cœur de sa réflexion sur le langage, comme sur, je dirais, les attitudes, entre autres amoureuses, mais pas seulement, et que ce non-vouloir saisir, il décrit bien la façon dont Barthes envisage la relation amoureuse, mais il écrit aussi bien sa relation à un tas de choses. Le Japon, par exemple, dans la paire de signes, est un espace du non-vouloir saisir. La photographie est, dans la chambre claire, l'espace même du non-vouloir saisir. Et l'on pourrait ainsi multiplier cette idée. Au fond, écrire, c'est ça, c'est ne pas vouloir saisir, mais c'est justement demeurer dans cette espèce de jeu d'interstice entre soi et le monde, quelque sorte.
Restons sur cette image. Merci Eric Marty pour cette discussion. Merci Luc-Jean Reynaud et Eric Boisset pour l'avoir réalisé. Merci à Anne-Catherine Lochard. Nous nous retrouverons, je l'espère, samedi prochain et nous consacrerons la prochaine émission à une autre figure de ce qui fut l'avant-garde intellectuelle dans une tentative de comprendre en profondeur ce que furent les retombées de mai 68, dont l'anniversaire approche, puisque nous y parlerons de Gilles Deleuze et de Félix Guattari avec François Dosse. D'ici là, bonne semaine à tous.